10 minutes chronique, une émission de Viva Culture par Catherine Desormières.
Henri Michaux est né en 1899 à Namur. Quand on lit son œuvre, on dirait bien qu'il est né la même année que chacun d'entre nous. Quel que soit notre âge, il est notre contemporain. Dans les cahiers de Lerne qui lui ont été consacrés, parus en 1966, il indique dans sa biographie les dates qui pour lui ont marqué son existence. Pour 1911 à 1914, il note « Découverte du dictionnaire des mots qui n'appartiennent pas encore à des phrases, pas encore à des phraseurs, des mots et en quantité et dont on pourra se servir soi-même à sa façon. » L'œuvre d'Henri Michaux est contradictoire et parfaitement cohérente. Michaux concilie les deux ennemis que sont contradiction et cohérence grâce à l'écriture. Le jeu, J-E, du texte de Michaux abandonne la réflexion pour laisser courir un rêve sans frein qui trace le dessin des soubresauts de son imaginaire associés à ceux de son corps. Michaux ne doute pas de ce qu'il ressent. Il ne se pose donc pas la question de la réalité des choses. À partir du moment où ce qu'il éprouve fait partie de sa réalité, s'installe la cohérence de sa méthode. En 1949, paraît « La vie dans les plis », recueil de 141 textes et poèmes, partagé en 5 parties, intitulé « Liberté d'action »,« Apparition »,« Portrait des médozèmes », Lieux inexprimables, vieillesse de Paul Lagoras. Voici le 11e texte du chapitre Liberté d'action. La statue et moi. À mes moments perdus, j'apprends à marcher à une statue. Étant donné son immobilité exagérément prolongée, ce n'est pas facile. Ni pour elle, ni pour moi. Grande distance nous sépare. Je m'en rends compte. Je ne suis pas assez sot pour ne pas m'en rendre compte. Mais on ne peut avoir toutes les bonnes cartes dans son jeu. Or donc, en avant. Ce qui importe, c'est que son premier pas soit bon. Tout pour elle est dans ce premier pas. Je le sais. Je ne le sais que trop. De là mon angoisse. Je m'exerce en conséquence. Je m'exerce comme jamais je ne fis. Me plaçant près d'elle, de façon strictement parallèle, le pied comme elle, levé et raide, comme un piqué, enfoncé en terre. Hélas, ce n'est jamais exactement pareil. Ou le pied, ou la cambrure, ou le port, ou le style, il y a toujours quelque chose de manqué, et le départ tant attendu ne peut avoir lieu. C'est pourquoi j'en suis venue presque à ne plus pouvoir marcher moi-même. Envahie d'une rigidité pourtant toute d'élan, et mon corps fasciné me fait peur, et ne me conduit plus nulle part. Le corps et la pensée de Michaux semblent ne faire qu'une entité. Ici, le corps tente de se conformer à ce que la pensée lui présente. Ainsi, entre le désir d'avancer et la peur qui l'accompagne, Michaux, dans une sorte de procrastination, décide d'entreprendre l'impossible. Pour donner raison à sa peur? Le désir de faire marcher la statue, c'est le désir de faire un pas hors de lui-même. L'apprentissage qu'il entreprend n'est pas désir de réaliser un exploit, c'est le désir d'éprouver l'inimaginable. Le pas qu'il mime pour la statue n'est pas destiné à la faire avancer, mais à faire que la force de l'imaginaire réalise l'exploit. Or, ici, l'imagination est rétive, elle refuse de dépasser la réalité. Une statue ne marchera jamais. Cette paralysie, pourtant, est bien autre chose que celle de la statue. C'est celle de Michaux qui s'offre au paradoxe. Lui, qui réfugié en lui-même, lui, l'immobile, veut apprendre la mobilité à une statue. Pourquoi vouloir apprendre la mobilité à ce qui, par définition, est statique? C'est dans ce choix irrationnel que se situe la réponse. Choix dont la finalité n'est pas de se réaliser, mais d'apporter la preuve de son caractère irréalisable, en le vérifiant, et enfin se conformer à cet impossible-là. Faire taire tout désir d'avancer, se confronter à l'immobilité de la statue, pour aboutir à ce que profondément souhaite Michaud, être lui-même empêché d'avancer. Pour montrer à la statue comment entamer le premier geste de la marche, Michaud est parti de la posture de la statue, celle d'un élan. Mais en s'y conformant, il a adopté sa rigidité. Et alors qu'il se représente sans relâche ce premier pas figé, il tend lui-même à l'immobilité. Apprendre à marcher à la statue, c'est apprendre de la statue à ne plus marcher. Car si l'homme peut imiter la statue, jamais statue n'imitera l'homme. Michaud se donne à l'inéluctable. Imiter la statue, c'est devenir statue. Le corps de l'homme statifié devient un objet de regret, pensé comme une enveloppe contraignante, carcan, à l'intérieur duquel se débat une volonté indéfinissable, aspiration vague à un envol, ou toujours, finalement, le recul devant la peur de l'existence se réfugie dans le corps forteresse. La constellation d'Épicure. Premier texte d'apparition. L'habitude qui me lie à mes membres, tout à coup, n'est plus. L'espace s'étend. Celui de mon corps, il est rond. J'y tombe. Je tombe en bas. Je tombe en haut. Je tombe infime dans des directions multiples. Rapide, je file. Ici, là, en successifs abîmes. Des coups. Je subis des coups, extrêmement brefs, venant de loin, de très loin, de partout. Impossible d'échapper. Je suis dans la constellation d'Épicure. L'habitude qui me lie à mes membres tout à coup n'est plus. Écrit Michaud. L'habitude qui le lie. Cette habitude, son habitude, qui lie son corps à sa tête, n'est plus, n'est pas. Il n'habite plus son corps. Il habite un corps qui n'est plus le sien. C'est un corps extensible. Son corps et l'espace sont de la même espèce. Il habite, il emplit l'infini. Il n'y a plus de direction, puisque toutes les directions sont possibles au même instant. Il s'éloigne de lui-même. Il s'amenuise, il quitte son centre, l'endroit d'où il pense. Et ses membres, qui sont lui, de plus en plus lointains et dispersés, le rendent minuscule à lui-même. Cette chute par palier, qui est aussi aspiration, est sans nom et sans origine déclarée. Elle vient de très loin et de partout. Non repérable, non localisable, incomparable et imparable. C'est le corps, dont la matière elle-même commence une errance en expansion vers l'infini, vers le rien. Un corps qui gonfle l'espace, un corps qui rejoint l'espace et en cherche les confins. Un corps livré à une errance sans limite et sans repère. Un corps lieu d'errance. Je vous donne rendez-vous le 1er février dans Viva Culture, sur Westrack Radio et aussi sur le podcast de 10 minutes chroniques. À bientôt.